Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Ça transpire.
Vous êtes les meilleurs. N'oubliez jamais ça.
Hello tout le monde. Est-ce qu'on m'entend ?
Oui, on t'entend.
Ok. Très bien. Alors, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 25 mars et vous retrouvez comme d'habitude votre émission Écoute ta fac. Il est midi sur Radio Campus 88.3 et on est avec Arthur et Sémilia.
Hello, enfin bonjour.
Hello à tout le monde.
Alors, pour faire un peu de programme, aujourd'hui Sémilia va nous parler de youtubeurs qui se lancent dans la musique. Et elle va nous présenter les principaux, on va dire, du moment. Et d'avant d'ailleurs. Et Arthur nous présentera ses recommandations de webtoon.
Je vous expliquerai ce que c'est.
C'est ça. Et puis moi, je parlerai un peu de censure. Et on va parler un peu de tout ça après un peu de musique. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Je vous mets l'Ertagi de Plume. Se retrouve pour un peu d'art. Vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, on parle art, on parle littérature et on parle féminisme. Comme d'habitude. Je sais, ça fait beaucoup. Alors, déjà, j'aimerais vous présenter Anaïd Demir, qui est auteure de l'ouvrage « Les suffragettes de l'art ». Donc, Anaïd, c'est une journaliste, critique d'art et auteure. Pourquoi parler d'elle maintenant ? Eh bien, tout simplement parce que son ouvrage que j'ai évoqué, donc « Les suffragettes de l'art », fait polémique dans le monde ces derniers temps. Ce n'est pas tant son contenu qui fait parler de lui, mais comment celui-ci a été reçu aux Beaux-Arts de Paris. En ses débuts d'année 2024, donc en janvier, Anaïd publie son livre en disant « Je sens alors qu'une menace plane sur lui, mais je ne sais lequel ». Et malheureusement, elle avait eu ce jour-là un très bon instinct. Une dizaine de jours plus tard, son livre est republié. Donc il a été d'abord publié normalement, et ensuite il a été republié avec 4 pages en moins. Pourquoi refaire tout un cheminement de publication d'un livre, coûtant en tout près de 10 000 euros, pour enlever 4 pauvres petites pages? Et surtout, que contenaient ces pages? Selon l'auteur elle-même, ces pages concernaient l'histoire du mouvement MeToo, de ses débuts en 2017 jusqu'à maintenant. Il est aussi important de savoir qui a publié ce livre et donc qui est responsable de cette polémique. L'École nationale supérieure des beaux-arts, donc l'ENSBA. Alors, évidemment, de nombreux étudiants se sont offusqués de cet événement, de plus que le directeur de cette école, qui est Jean-Marc Bustamante, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, qui est cet homme? C'est un artiste français, c'est un professeur aussi, bien avant d'être le directeur de cette école. Et au sein de l'école, il est connu pour faire preuve d'aveuglement, on va dire, devant les affaires d'harcèlement sexuel et d'agression. On va dire qu'il ne se sent pas vraiment concerné par la cause. Mais on peut pas prendre parti. Mais ne pas prendre parti est une chose, mais pratiquer la censure en est une autre. En tout cas, c'est ce que les étudiants et certains journalistes ont fait remarquer. Dans les pages pilonnées se trouvaient des paragraphes évoquant de vieux discours de ce dernier à propos du mouvement MeToo, ainsi qu'un extrait de la charte sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Cet extrait retrouvait notamment la notion d'harcèlement, qui est, comme je l'ai dit plus tôt, un des reproches les plus fréquents concernant Jean-Marc Bustamante. Il ferait l'aveugle devant ces cas-là. Alors l'affaire fait de plus polémique parmi les habitués de l'école et de son entourage, car depuis peu, la tête des Beaux-Arts de Paris est dirigée par une femme, Alexia Farbe. Connue pour son combat pour la visibilité des œuvres féminines, elle est alors... ce n'est pas elle qui est choquée, c'est le public qui est choqué de sa décision du coup de censure. Elle témoigne par la suite. Nous avons donc pris rapidement, trop sans doute, la décision de retirer ce chapitre, car nous n'avions ni le temps ni la possibilité de rendre compte de façon juste de ce moment d'histoire. Justification ou vraie raison, rien n'empêche qu'aujourd'hui les pages en question n'ont pas été rajoutées et que cette histoire rajoute encore un chapitre dans la censure des arts féminins. Peut-être qu'un jour les femmes pourront disposer de leur art et de leurs mots, car en l'occurrence là c'était des mots. Évidemment on évolue, mais cette affaire nous rappelle qu'il y a encore à faire et que les femmes ne devraient pas être censurées de la sorte. Et d'ailleurs personne ne devrait être censuré en raison de leur genre. Alors, tout de suite, je vous passe un peu de musique, blues de Bandis.
Sound. I heard the siren sound. I heard the siren sound. I heard the siren sound. Camera caught on Frank Lucas chinchilla on. They throwing money like rice at a wedding on a sunny day. Settlements, could they break the state? They paper pay for all they mistakes. Life thrown away like paper plates. Judicial system gets very pay for play. But every night, more settlements living in this element. Knows that 7, 12, 5, and 11 gets desensitized. A baton swirling the stew of dehumanizing selective civil rights. And
what if we all got gun cards and anti-probable suits?
We need preemptive actions for real change to pursue. No simple answers, please.
In this interview, most problems grow bigger if they never work through. You ever been stopped walking to work, made you miss the bus too? Ridiculous appendages of patriarchy and subliminal moves, where the thoughts are skewed. GTA both ways, with no safe house to snooze. Each decade, the same story, need a new author in tune. Swiss cheese in the innocent, a heathen, family grieving. Look like justice to you.
Hell no.
While others escorted regally, I mean Burger King too. Heavy in my heart for those that's gotta go through. Stand in solidarity, man, something got to move.
Thank you.
c'est à toi.
Merci Anaïs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Webtoon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de sortes de mangas, pour la grande majorité venant de Corée du Sud, qu'on lit de manière verticale sur téléphone ou ordinateur. Alors, il existe plusieurs applications pour lire ces œuvres, dont la plus connue s'appelle, sans grande surprise, Webtoon. Vous avez sûrement entendu parler de cette application via les très nombreuses pubs qu'on a depuis quelques années. Donc, vous pouvez retrouver dessus des manhwa, leur autre nom de ces webtoons, de tout genre, comédie, romance, drame, sport, action. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors aujourd'hui, je viens vous faire deux recommandations parmi les quelques webtoons que j'ai pu lire. Le premier dont je souhaite vous parler est sans aucun doute mon préféré, The Boxer. C'est comme son nom l'indique, un webtoon qui parle de boxe, écrit par Jung Ji-hoon, l'auteur également de Horizon, un autre webtoon slash manga très populaire. Alors on y suit Yu, un lycéen qui se fait harceler par des brutes sans se défendre du fait qu'il ait l'air un peu blasé de la vie. Mais un jour, lorsqu'il voit un autre lycéen se faire frapper, il a un déclic et décide d'infliger un sérieux coup de poing à l'un de ses agresseurs, le mettant KO directement. Il fait donc ça sous la vue de K, un entraîneur légendaire ayant formé les plus grands, dont le champion du monde poids lourd du moment, Aaron. Il propose alors à Yu de le former à la boxe de haut niveau. Ce dernier refuse dans un premier temps, ne préférant pas se battre, mais il finit donc par accepter. Ainsi, le protagoniste va aller défier tous les champions de toutes les catégories, donc poids léger, poids moyen, poids lourd, etc. Il affronte environ 5 ou 6 adversaires. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce webtoon est absolument incroyable ? La réponse est simple, ses personnages et ses messages. Yu ne parle quasiment pas et est peu expressif comme protagoniste. En fait, sur les un peu plus de 100 chapitres, on s'attarde bien plus sur ses adversaires, leur mentalité, leur parcours personnel, leur passé, avec chacun a droit à un flashback de plusieurs chapitres. Alors The Boxer, donc, c'est pas un shonen classique, parce que le héros, c'en est pas un. Il s'approche en réalité bien plus d'un animal, d'une bête féroce qui n'a qu'une seule idée en tête, détruire ses adversaires. Cela se traduit par la plastique de Yu, qui, lorsqu'il est en combat, voit son apparence changer en celle d'un monstre terrifiant. C'est là qu'apparaît le message de The Boxer. C'est quoi être un homme ? La question du surhomme se pose donc assez rapidement au sujet du personnage principal. Est-il réellement humain ou est-il un monstre, un animal ou un démon ? Un peu comme K, son entraîneur, qui on se rend compte au fur et à mesure des chapitres qu'il s'approche bien plus de l'animal que du véritable homme. Alors l'œuvre évoque évidemment bien d'autres sujets. Alors, pas des sujets très joyeux, par exemple on évoque principalement la dépression, la solitude, la mort, le harcèlement, mais également la famille, le deuil, la maladie, le dépassement de soi. Bref, The Boxer est presque une œuvre parfaite, qui se rapproche bien plus du drame que du sport, la boxe étant relayée au second plan. Alors moi je vous conseille vivement The Boxer, qui commence à sortir des tomes en physique, comme beaucoup de webtoons, comme Tower of God, etc. Alors l'autre œuvre dont je voulais vous parler, c'est High School Mercenary, de YC au scénario et Rak Hye-on au dessin. Alors pour le pitch, on suit Hee-jin, qui revient de Corée 10 ans après avoir disparu dans un crash d'avion avec ses parents. Il retrouve ainsi sa sœur et son grand-père. Hee-jin reprend donc une vie de lycéen classique, mais un jour, il découvre que sa sœur est harcelée par les frères et sœurs les plus influents du lycée. C'est là que ça devient intéressant, puisqu'on se rend compte que Hee-jin a obtenu des compétences assez spéciales durant les années où il a été porté disparu. High School Mercenary a un découpage assez ingénieux dans son histoire, parce que ça ne se fait pas en très longs arcs comme les mangas classiques, mais on suit plutôt quelques passages de quelques chapitres suivant la vie de Hee-jin dans différentes situations. Donc on se concentre jamais sur la même chose. Par exemple, on va suivre pendant 5 chapitres Hee-jin au lycée avec ses amis. Puis on va passer à une histoire un peu plus sombre sur son passé pendant les années où il a disparu. Puis on va revenir au présent où on va le suivre dans son travail de garde du corps, etc. etc. On a quasiment 200 chapitres aujourd'hui. Donc moi je vous conseille véritablement High School Mercenary, qui n'est donc pas un drame comme The Boxer, vous l'avez sans doute compris, mais plutôt un mélange entre comédie et action, un mélange qui fonctionne donc à merveille. Alors ces deux œuvres donc sont disponibles sur l'application Webtoon, même si pour The Boxer, étant donné que l'œuvre est terminée avec ses un peu plus de 100 chapitres, il faut payer pour les chapitres, même s'il commence à sortir des tomes en physique, plus ils ont annoncé un animé il y a quelques temps, bon on n'a pas de nouvelles, mais on espère que ça sortira bientôt. Et High School Mercenary, vous pouvez encore lire ça gratuitement sur l'application, étant donné que c'est encore en cours de parution, donc c'est un chapitre par semaine. Je vous recommande vivement. Et ils sortent aussi également quelques tomes, je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont sortis. j'ai acheté le premier et moi je vous conseille vraiment. Alors ça peut être un peu déroutant parce que forcément les webtoons ça se lit de manière verticale et quand on sort un bouquin bah, c'est donc de gauche à droite. Mais ça fonctionne à merveille, moi je vous conseille véritablement ces deux œuvres, donc The Boxer et High School Mercenary. Alors bien sûr j'aurais pu parler de bien d'autres webtoons mais ce sera peut-être pour une prochaine fois.
Très bien, et on va vous passer tout de suite Valse du bout du monde de Ojoon. Thank you. Donc comme je l'ai dit, c'était Vals du bout du monde de Ojoun. Et tout de suite, Haïti's Journey de Obed Calvert.
Thank you.
Et tout de suite, c'est au tour de Cémilia de nous faire sa grande chronique.
Et oui, une grande chronique puisqu'elle va être un petit peu longue. Aujourd'hui, on va parler des youtubeurs qui se lancent dans le rap, ou du moins ceux qui tentent de s'intégrer dans l'univers musical. Alors si je parle de ça aujourd'hui, c'est bien parce que Théodore, le youtubeur aux plus de 2 millions d'abonnés, pratiquement 3 millions il me semble, il a supprimé toutes ses vidéos YouTube en nous laissant sur une vidéo qu'il intitule « C'est la fin », dans laquelle il reprend son parcours depuis petit avec des témoignages de ceux qui l'ont entouré, notamment Mastu avec qui il formait un duo unique depuis 2021. Il annonce dans cette vidéo qu'il arrête sa carrière de youtubeur, d'où la suppression de ses vidéos, pour justement commencer une carrière musicale, ce qui semble plus le représenter puisqu'il affirme s'y épanouir davantage. Aujourd'hui, Théodore nous fait danser avec un titre qui s'inspire de l'afrobeat, un style musical dont j'ai déjà parlé dans une chronique d'Écoute ta fac, avec un morceau récemment publié, Toko Dombo, il y a de cela 5 jours et qui est déjà un petit succès. Théodore a choisi de tourner la page des vidéos YouTube et du Lot, un projet qui s'est d'ailleurs terminé en début 2024, pour se consacrer à la musique. Mais d'autres ont réussi à concilier les deux, bien que des enjeux de crédibilité freinaient beaucoup cette transition. Lorsque le talent et la passion s'imposent, difficile de ne pas croire aux projets qui peuvent en découler. Mister V en est la preuve vivante, puisque c'est l'un des premiers à concilier son métier de youtubeur et son côté rappeur, puisqu'il est parvenu en 2017 à ouvrir une passerelle au YouTube français avec son premier album W, un projet rempli de clins d'œil à sa carrière de youtubeur et à l'humour qu'il entretient sur sa chaîne, tout en restant logique et crédible musicalement. Un exploit jamais encore réalisé auparavant. Mais beaucoup ont aussi fait des musiques sans trop se lancer dans une carrière musicale, avec des clips drôles et toujours dans la bonne humeur. On peut citer les plus connus Natou, hein, avec la chanson des licornes, il y a déjà 10 ans de ça, ou encore la chanson de l'humour, tenez, je vous passe un petit extrait.
Pour les blagues, très très nulles et bien ringardes, bonjour, j'aime l'humour, j'apprécie quand il est lourd. Hop là, je t'ai volé ton nez, hey, vas-y, tire sur mon doigt, quand je suis dans l'ascenseur.
Et oui, ça fait déjà 10 ans que Natou nous a sorti cette musique, la chanson de l'humour, mais il y avait surtout la chanson de la licorne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était très popularisée, on l'entendait beaucoup dans la cour de récré. Elle a aussi écrit « Je sais pas danser », aussi sur le ton de l'humour. On a aussi Squeezie avec « Time Time ». On écoute un petit extrait.
« Sun felicita, kamanank, un pepene, un pepene. »
Un titre qui a fait 62 millions de vues. Et il est sorti il y a 2 ans. Une musique sur laquelle il chante en roumain avec le groupe Trei Degete. C'est ça, c'est un groupe, il me semble.
Je sais plus.
Ils ont formé pour l'occasion. Enfin bref, du coup, il chante en roumain et c'est un banger, vraiment, on peut le dire. Qui nous reste en tête et vraiment ça a été incroyable en 2022, l'été 2022 c'était foufou. On peut aussi parler d'Adieu les filles de Squeezie, bon je vais pas vous la passer, on va pas toutes les passer, mais tout ça pour dire que genre on a beaucoup de youtubeurs qui se lancent dans la musique, on peut parler aussi de Cyprien, de McFly et Carlito, de Joyka, du Monde à l'envers, d'Inox Tag, souvent avec l'objectif de faire rire, de parodier ou encore de clasher. Justement, concernant le clash, on peut parler de Overwatch Rap Battle, qui réunit, bon c'était il y a un moment, je ne sais pas si vous en souvenez, ça a fait quand même 67 millions de vues sur YouTube, c'est sorti il y a 6 ans, et c'est un feat qui réunit donc plein de YouTubers, ce qui permet justement de donner de la visibilité à ceux qui en ont le moins. Je pense notamment à la collaboration justement d'Overwatch, c'est ça, hein. Il y a eu d'autres Rap Battle avec... Le clash de l'astéroïde, par exemple, on en a moins entendu parler, mais c'était aussi des battles avec plein de... Enfin, ils se clashaient pas ensemble, les youtubeurs, mais... Je veux juste tout ça pour dire que le clash, il est très présent dans les musiques YouTube. Donc, Overwatch Rap Battle, je vais vous passer un petit extrait. C'est un clash, une rap battle, quoi, qui s'inspire du jeu d'Overwatch, et qui reprend le même univers avec des personnages interprétés par des youtubeurs. On a l'apparition de Squeezie, Natou, Mr. V, Cyprien, mais aussi pour les moins connus, Andy, Lola Dubini, Eleonore Costes, Alpha Cast ou encore Julien Josselin. Je vous laisse écouter. On commence avec Squeezie qui interprète Macrou, le personnage du jeu.
Park, c'est la panique au Far West. Je suis le king d'Overwatch, personne ne peut me tester. Un poncho bariolé, les poches pleines de billets. Dis-moi sur qui t'as parié, moi j'ai six coups dans le barillet. Face à toi, rien à craindre, j'ai mis mon gilet pare-balles tringue. Je te mets du plomb dans l'air, un air de piano basse tringue. C'est le ball trap. Il me suffit d'une balle pour te faire tomber ma poule. Y'a le bon, la brute, et y'a Jesse McCree. Je dis plus vite que ton ombre et ta balle, vous êtes tout juste assez. Je fais à la loyale
une dernière volonté.
Le clip est incroyable. Pardon, j'ai dit Macrou, le personnage d'Overwatch. Ouais, c'est ça, c'est Macri. T'aurais dû me reprendre, Arthur.
Désolé. Là, j'avais un doute aussi.
Vous voulez écouter la réponse de Natou en ange de Macrou,
ouais.
De Macrou de
Vas-y.
Overwatch.
La gueule d'une mascotte, c'est un mauvais fast-food. Quand t'essayes de camper, on te repère à l'odeur. Quand t'essayes de kicker, tu rappes comme un youtubeur. Tu te prends pour un cow-boy, mais tu seras mon cobaye. Tranchant comme un scalpel, mes lyrics sont létales. Et si tu cries médic, je t'emmène aux urgences. Pour mieux te défoncer la gueule, sans ordonnance.
Toujours prêt pour le combat, à coup de missile
et
de...
Et voilà, incroyable le clip. Vraiment, la collaboration de tous ces youtubeurs, c'est un truc de dingue. Parce qu'en plus, on en a qu'on n'entend pas beaucoup parler, justement. Et je vous invite à regarder la vidéo. On peut parler comme musique de musique encore sur YouTube créée par des youtubeurs du morceau On se fait un FIFA. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
On est d'accord. C'est un morceau qui a été publié sur la chaîne Bigorno et Coquillage. C'est une chaîne tenue par Squeezie et Cyprien autour du gaming. Si vous voulez, je vous passe un petit extrait aussi.
Prêt à faire mon entrée, vêtu de noir jusqu'à la tête, la place est désertée. Je rentre sans effraction, on appelle ça la classe. On n'est pas tous des bons, mais moi je suis le roi du passe-passe. Les maisons du quartier sont toujours bien fournies. C'est ma centième visitée, après ça c'est fini. Pour moi c'est la routine, j'ai le plein de confiance. Et façon Billie Jean, je fais même quelques pas de danse. C'est tellement facile, j'y vais les yeux fermés. Les bijoux de famille, y'a pas mille endroits pour les cacher. Je retourne les photos car j'ai un minimum de scrupules. Les volets restent incognito, même si c'est ridicule. Mais comme c'est la dernière, je décide de regarder. Le fils, le père, la mère, une famille de policiers. Les mains en l'air et tourne-toi. On se fait un FIFA.
Sympa les musiques de youtubeurs, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est du taf en vrai, hein. Pour ça que c'est peut-être pas pris trop au sérieux. Enfin bon, cette vidéo On se fait un FIFA de Squeezie et Cyprien a fait 33 millions de vues, donc ça a marché et ça a permis justement de faire de la pub à ce jeu, à FIFA en 2015. C'est probablement l'objectif des deux youtubeurs puisqu'il me semble qu'ils étaient bien sponsorisés par le jeu. Et ils en ont d'ailleurs profité aussi pour faire un clin d'œil à Babysitting, ça j'avais envie de le dire. Mais dans le clip, bah, y a une scène qui nous fait beaucoup penser à Babysitting, je crois que c'est le même endroit d'ailleurs. Et ce film, je ne sais pas si vous avez connu.
Oui, c'est le film de Philippe Lachaud. Ouais.
Exactement, un film très connu en 2015. Enfin, il venait de sortir, donc forcément on en entendait beaucoup parler. Et voilà, donc dans le clip, je vous invite aussi à le regarder parce que c'est vraiment le clip des musiques de youtubeurs, c'est incroyable. Quoi. C'est fait pour en fait, c'est plutôt le visionnage que la musique, mais tout, ça donne envie quoi. On peut aussi parler d'un autre clash, encore avec Cyprien et Squeezie. C'est le clash de Cyprien dont on en a beaucoup entendu parler. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais les deux youtubeurs étaient un peu en concurrence avec qui était le youtubeur préféré des Français, notamment avec les hashtags Squeezie First ou Cyprien First. Je peux vous passer un petit extrait. Allez hop. On écoute le clash de Cyprien en réponse à Squeezie.
Tu me laisses pas trop le choix. Quand je t'ai connu, t'étais sympa et grand comme ça. Aujourd'hui t'es devenu arrogant mais t'es toujours grand comme ça. Tu sais, clasher quelqu'un c'est pas ma première fois. Ma dernière cible a disparu du net, alors d'avance pardonne-moi.
Sébastien,
Franchement à ta place je ferai pas le malin parce qu'à ton âge t'as encore besoin de moi quand tu déménages et faire du bricolage. Je préfère faire des vues sur du travail, pas du racolage. Si Reddit et Twitter ferment, tu te retrouves au chômage. Je le reconnais, t'es la star dans les cours de récré. Entre deux parties de billes, les enfants disent que t'es leur préféré. Et mon petit doigt me dit que tu vas encore grimper, car ils vont bientôt mettre ta chaîne sur les télés dans les maternités. Qu'importe la place pour les gens, je reste premier dans leur cœur. Si t'arrêtais de dire des traits, tu tomberais dans les profondeurs. À quoi ça te sert d'avoir des millions de vues au compteur si le seul majeur qui mate tes vidéos, c'est ton monteur?
Squeezie, je veux pas de clash, mais à présent, c'est la cour des grands. Si reste à ta place chez les enfants, laisse la place aux grands.
Voilà. Ça a beaucoup tourné sur TikTok et enfin un clash extrêmement drôle. En plus, il me semble qu'il l'a dit, j'ai pas fait très attention, mais à un moment donné, il fait une référence à un autre clash qu'il avait fait auparavant, mais il y a vraiment longtemps, genre
oui,
on était enfant.
Je crois contre Cortex.
Exactement, contre Cortex, et il a carrément dit qu'il avait disparu de YouTube, quoi, tellement il l'avait bien clash. C'est super drôle parce que dans beaucoup de musique des YouTubeurs, justement, il y a des références à des vidéos YouTube, à des dramas YouTube, enfin... Enfin bref, on continue. J'avais aussi envie de mentionner McFly et Carlito avec leur musique OK Boomer et Déprime aussi de Mastu, dont on a un peu entendu parler, j'avoue. Ça a fait 21 millions de vues. Et c'est un morceau dans lequel le youtubeur Mastu se confie sur sa dépression. On peut aussi mentionner les défis que se donnent les youtubeurs, comme celui de Squeezie. On entend beaucoup parler de Squeezie dans cette chronique, ouais. Mais j'avoue qu'il a fait pas mal de trucs. Hein. Il donne le défi en 2020 à Keza Joyka et Freddy Gladieux de faire le meilleur hit de l'été. Donc ce qui est cool avec les musiques, justement avec ces hits qu'ils vont créer, c'est qu'on a la vidéo d'avant du défi. Et ça c'est vraiment chouette. Je peux vous passer un morceau de la musique qui a remporté ce challenge. C'est celle de Freddy Gladieux et Keza qui, franchement, on peut se le dire, ça remporte haut la main le défi. On écoute.
Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella, Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera, Sigario, dans le barrio.
Je sais pas si vous vous en souvenez, bon, je me suis trompée, c'était pas 2020, c'était 2019, l'été 2019, mais j'avoue que c'est un... En fait, c'est des youtubeurs, Freddy Gladieux et Keza, et il me semble qu'ils sont pas tant dans la musique que ça. Et pourtant, ils arrivent à faire des hits incroyables. Enfin, cette musique, elle nous reste dans la tête et elle donne vraiment envie de danser. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, les youtubeurs ont plusieurs casquettes et ça en témoigne. Un autre défi que Squeezie a lancé, c'est le freestyle du Dico avec Big Flo et Oli. On peut écouter un petit peu, un petit peu, quelques secondes.
Yeah! Je prends de la valeur avec l'âge, comme des cartes Yu-Gi-Oh! Mon flow est en feu, je suis plus chaud qu'un cubilo. Monte le son dans le casque, écoute nos histoires. Les MC pètent un câble, et puis soir, prends tes places, viens voir le spectacle.
Bah voilà, vous l'auriez compris, c'est un défi que Squeezie a lancé justement à Big Flo et Oli, qui eux sont de réels rappeurs. Et le défi c'était justement de créer un morceau avec des mots du dictionnaire, mais dont on sert pas du tout tous les jours, comme conoïde ou nictation.
Je suis pote avec le petit Robert et le grand Alain.
On débarque.
Combien de vues ? 46 millions de vues. C'était il y a 6 ans déjà. Nostalgique tout ça. On continue. Enfin, évidemment, si on parle de musique sur YouTube, difficile de passer à côté des parodies. On peut parler du Ramener le grec à la maison de Joyka, qui justement parodie Ramener la coupe à la maison de VG Dream en 2019. Je voulais aussi parler du Palma Show, qui, ok, ils sont moins dans cette génération, ils sont un petit peu plus vieux, mais ils sont quand même présents, il ne faut pas les oublier. Ils ont parodié beaucoup d'artistes comme Aya Nakamura, l'artiste, 3 cafés gourmands qu'ils ont renommés en 3 cafés sans filtre. On a aussi PNL qu'ils ont renommé en PML rappeur sensible, SCH, Naps. Mais moi, je retiens la parodie qu'ils ont fait d'un titre de Vianney qu'ils transforment en Vianouche, avec le titre La Chienlit. Et ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai écouté. C'était il y a un moment déjà, c'était il y a 4 ans. Je vais vous le partager parce que vraiment, c'est très drôle.
La Saint-Valentin, mais ma femme veut faire une pause. J'ai une soirée raclette demain, mais je suis intolérant lactose. C'est pas grave, c'est la vie. Mes potes partent pour le pont, moi je dois bosser lundi. c'est pas grave, c'est la vie. Oh, là je suis en lit. Je suis chanteur, je suis fier, mais les gens n'achètent plus de CD.
Moi, perso, ça m'a fait beaucoup rire, mais le Palmacho, j'avoue que c'est un peu mon duo préféré, je crois, de YouTube, qui sont extrêmement drôles. Enfin bref, toutes ces musiques pour nous ramener un petit peu en enfance ou à l'époque où on était au collège et qu'on chantait ça dans la cour de récré. La frontière entre les YouTubeurs et les rappeurs peut parfois être très fine, mais ce n'est pas ce qui dérange, on vient de le voir, loin de là. La musique est partout, c'est un milieu ouvert à tous, c'est ce qui donne quelque chose en plus à certains morceaux. Bah, c'est bien les histoires qu'il y a derrière, les clashs, comme on a pu le voir, les défis, les parodies, mais surtout aussi les clips qui ne cesseront de nous faire rire et de nous amuser et qui restent dans la tête. On peut aussi parler du fait que certaines de ces vidéos sont sur les plateformes de streaming, comme Spotify, donc ça donne vraiment une autre dimension qu'une simple vidéo YouTube. C'est de la musique, puisque c'est sur les plateformes de streaming. Donc en effet, les youtubeurs, ils ne se résument pas en fait à, je cite, faire le guignol, enfin les youtubeurs, ouais, faire le guignol devant une caméra, ou avec mes propres mots, de ne faire que de la vidéo. Je voulais dire qu'il y en a beaucoup qui font de la musique, même si leur carrière principale, c'est youtubeur. Et d'autres font du podcast, des vlogs, mais ce n'est pas juste être derrière une vidéo et de faire le guignol. Comme on dit l'expression que j'ai reprise. Je voulais remercier Julienne qui m'a donné l'inspiration pour écrire cette chronique. Bon, c'était assez nostalgique avec des musiques qui ont bercé notre enfance, je l'ai déjà dit. On se souvient encore aujourd'hui de ces musiques, on a pu le voir, j'ai vu Anaïs me faire plusieurs sourires et Arthur chanter. y en a encore moi que je me souviens encore sur le bout des doigts. Donc c'est vraiment, ce sont des musiques qui restent gravées dans les esprits, qui nous ont marqués, et peut-être que les plus envieux diront à quoi bon connaître ces musiques, elles peuvent sembler sans fond, sans paroles, bien profondes, il n'empêche qu'elles nous ont bien marqués et amusés lorsqu'on était plus jeunes, et qu'elles nous ont permis de débloquer des rêves qu'on a toujours aujourd'hui. Merci de votre écoute, j'espère vous avoir fait revenir en enfance. Vous voulez qu'on en discute ?
Non, mais c'est...
Vous êtes retourné en enfance, on est d'accord ?
Oui.
C'est vrai que ça fait...
J'ai des flashs...
Natou, c'était il y a 10 ans.
Ouais, surtout Natou.
La chanson des licornes. Ouais. Bah, c'était il y a 10 ans et ça nous faisait marrer de rire, quoi. Vraiment, on s'en tordait le bide.
C'est ça.
Bah, après, là, tu disais, il y a des musiques qui ont 5 ans, j'ai l'impression qu'ils sont sortis il y a 6 mois. Mais
Oui, mais c'est carrément ça. Le temps passe. C'est triste. On grandit.
On va en avoir des nouvelles, c'est pas grave, avec Théodore qui se lance dans la musique.
Oui, c'est vrai. Enfin, bon, je vous passe un morceau de. Vaya Mulato, pas du tout, Alfredo Diaz Gomez avec le morceau Vaya Mulato.
We'll be right back.
Et donc, pour les 8 minutes qui nous restent, on va finir, sur un petit jeu que vous connaissez très bien en force de temps. On le fait absolument tous les lundis, parce qu'on adore ce jeu. On va jouer au jeu des naissances et des morts.
Ouais.
Comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, il y avait pas mal de personnes, mais il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps pour tous les faire. Alors, on va faire mes préférés ou les plus connus, en tout cas.
Fais ce qu'on est susceptible d'avoir, ouais, parce qu'on n'est pas très doués, Arthur et moi.
Ok.
Enfin, surtout moi.
J'en ai un toutes les deux semaines.
Alors, d'accord, donc on va faire notre premier personnage, qui est un homme. Il est né le 25 mars 1947, donc ça remonte un petit peu, mais je pensais que c'était quand même plus vieux. Il est anglais, et c'est important, on le sait tous qu'il est anglais. C'est un chanteur rock et pop, compositeur et comédien, entre autres, même si je ne savais pas qu'il était comédien. Je l'ai appris en faisant des recherches. Son vrai nom est Reginald Kenneth Dwing. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. Lors de ses 50 ans de carrière, il chante plusieurs titres très connus, donc attention aux titres, comme Your Songs, Levon, Teeny Dancer, Rocket Man.
Ah, c'est Elton John.
Exact.
J'allais dire Taron Egerton, c'est celui qui l'a joué dans le biopic, mais...
Vraiment, j'ai dit les noms et je savais que le Rocketman, il allait faire parler de lui.
De toute façon, t'as dit anglais, j'étais en mode, bah, Elton John, c'est le plus connu, mais je pensais pas qu'il était si vieux, par contre.
Et moi, je pensais plus, par contre. Tu vois, genre, je sais pas, je pensais que c'était plus...
Bah, 47, il a quoi, il est dans les 70 ans, j'ai la flemme de calculer, mais...
Oui, 80.
Et il continue,
il approche des 80.
Ouais.
Oui,
je crois qu'il doit avoir genre 76, un tout genre.
Ouais.
Écoutez, je ne sais pas.
C'est du calcul.
C'est du calcul et je n'ai pas la tête à ça. Et donc, pour finir, on va mettre que deux personnes, à part si vraiment
on
a
le temps.
Mais notre troisième personne, je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui, donc il va falloir trouver.
Ouais.
Alors, pour notre deuxième personne, qui est une femme, évidemment, notre deuxième personne est une chanteuse et pianiste née en 1942. Elle est connue pour avoir combattu au bras de Martin Luther King pour les droits civiques américains et pour la paix. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des chanteuses afro-américaines les plus influentes de son temps. Je ne vous dis pas sa date de mort parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc les journaux en ont beaucoup parlé. Elle est la chanteuse la plus classée dans l'histoire de l'industrie discographique américaine avec 112 titres placés dans les charts américains. Son nom, on le connaît, mais elle est plus communément appelée « The Queen of Soul » dans le monde de la musique. Sa mort a perturbé de nombreuses personnalités du showbiz, donc sa mort c'était en 2018.
J'ai plus son nom.
Dont notamment Mariah Carey qui a dit qu'elle était son inspiration dans la vie.
J'ai plus son nom non plus.
C'est mais pas là, Amy Winehouse.
Non, pas du tout.
Elle est née en quelle année tu m'as dit?
En 42. Et j'ai fait mon oral dessus.
J'ai plus son nom. Enfin, je sais plus.
Alors,
voir qui c'est, mais.
Donne son prénom et on essaye de trouver son nom de famille.
Non, mais c'est facile, je donne son prénom. En fait, vraiment. Il faut connaître. Et Amy Winehouse, je suis très vexée de Amy Winehouse. Parce que Amy Winehouse est une très très grande chanteuse, mais elle n'est pas afro-américaine.
Ouais,
c'est
vraiment pas.
Blanche.
Non, je sais pas. Non, Tu vas dire son nom, je pense que je l'aurai, mais là je l'ai
elle
pas.
Elle s'appelle Aretha.
Ah, j'ai plus son nom de famille.
Oh là là. Alors,
je crois que je connais pas en fait.
Tu connais pas Aretha Franklin?
Ah oui, voilà.
Elle est de la. Ah, elle est la femme de Martin Luther King.
Non, pas du tout.
Non, elle a juste combattu
Franklin.
Avec...
Ah, Franklin. Mais c'est qui, Franklin? Non, pardon, je confonds. Excusez-moi. Non, je confonds, je m'embrouille. Tout s'en mêle.
La femme de Martin Luther King.
Je sais pas pourquoi je dis ça.
Ah, oui.
Mais elle était avec Martin Luther King dans sa lutte...
Oui, voilà. Elle a combattu au bras de...
Maintenant que tu le dis, oui, je vois. Je pensais qu'elle était morte il y a plus longtemps que ça.
Non, elle est morte en 2018. Il y a tout le monde qu'on a parlé. Genre, tous les journaux, on en parlait. Et donc, je vais faire une dernière personne. Mais j'ai vraiment pas beaucoup d'infos sur lui. Je vous verrai la dernière info que j'ai sur lui. C'est vraiment genre le seul truc que je connais au final. C'est pour ça que je le connais d'ailleurs. Alors, notre troisième personne est donc un homme, comme Sémilia l'a dit. C'est un rappeur né en 1988. Donc, beaucoup, beaucoup plus jeune que les deux légendes dont je viens de parler. C'est un chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain. Il a fait beaucoup de chansons, notamment avec Kanye West. Et son label Good Music, il a collaboré avec Tila, si on veut parler d'actualité.
Arrête, quand?
Je ne sais pas. Et la dernière info que j'ai sur lui, parce que je ne connais vraiment pas cet homme, c'est que c'est un des ex-copains de Ariana Grande.
Pete Davidson?
Non. Est-ce que tu connais les ex d'Ariana Grande?
Non.
C'est ça la question.
Papi Dancing, il est sorti avec tout le monde. Donc
avec Kimka aussi. Parce que je peux me tourner vers Arthur, mais...
Non, voilà, je l'aurais pas là.
Ouais.
Mais si,
ou alors tu vas le dire, je le connais de loin, mais...
D'ailleurs, il me semble que dans les récents, c'est le seul homme noir avec lequel il est sorti. Non.
Là, je l'ai pas là.
Et sinon, je vais donner le nom de la personne. C'était Big Sean.
Big Sean.
Big. Big
Sean. Mais c'est pas un DJ?
Non. C'est un Big rappeur.
Sean. Ah, je confonds avec Sean Paul.
C'est un rappeur parce qu'elle a fait une chanson avec lui, mais je ne sais plus comment elle s'appelle.
Attends, Big
Best
Sean.
Best Mistake, je crois. Elle a fait la chanson Best Mistake avec lui.
Attends, c'est une femme?
Qui est Big Sean?
Oui.
Non?
Ah. Ok, pardon. Waouh. La fatigue. Hein.
Oui, la fatigue, la fatigue.
Il est 13h.
J'avoue, lundi 13h. Bon. Eh bien, c'est bon pour nous. On a
fini notre
émission. On vous dit à la semaine prochaine.
Trop hâte de vous retrouver.
Comme d'habitude.
Ouais. Comme d'habitude.
Et ça va mettre du Claude François après, tu vas voir.
Oui, là, je l'avais déjà dans la tête, la musique.
C'est ça, moi aussi. On l'a dit deux fois de suite, j'ai fait, ça y est. Et tout de suite, je vous passe Shakti de Schlag.